sans répit, je vais laisser s'installer Pierre-Laurent Dorès et Yann Madet, qui vont nous parler. Il a été évoqué tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure la question des lecteurs pratiquants, donc des lecteurs qui, à leur tour, se mettent à concevoir des bandes dessinées. Donc ça va être le propos, dans les secondes qui viennent, de notre duo. Que je laisserai aussi se présenter, hein, tous les deux sont, je crois, enseignants et auteurs. Pierre-Laurent, je te cède la parole, donc.
Oui, bien sûr. Nous allons commencer à parler. Excusez-moi, j'étais concentré sur l'écran, puis les opérations de les opérations numériques. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Pierre-Laurent Dorès. On va se présenter dans quelques minutes. Je vais juste commencer à introduire le sujet, parce que l'intervention s'appelle le lecteur pratiquant, et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Nous, on considère que le lecteur de bande dessinée devient lecteur pratiquant lorsqu'il prend le crayon pour faire lui-même de la bande dessinée. Donc, lorsqu'il se met en situation de produire ce qu'il aime lire. Donc, c'est des collégiens, des lycéens, des étudiants, des élèves de grandes écoles, des cadres chez IBM, des institutrices, des inspectrices des impôts, animatrices, on dirait une chanson de Philippe Catherine, qui ne constituent pas un échantillon représentatif pour une enquête de lecture, ni un panel pour exploitable pour une étude de marché. Mais ce qui se joue dans le passage du lire au faire, on pense que ça nous renseigne sur les lecteurs en général et sur leur rapport à la bande dessinée. Donc on va se présenter, je vais peut-être commencer par laisser Yann se présenter.
Donc je suis Yann Madet, donc depuis une vingtaine d'années j'anime des ateliers d'art plastique orientés vers la bande dessinée dans les Bouches-du-Rhône, dans milieux scolaires, médiathèques, centres sociaux et puis aussi centres d'art. J'organise aussi des conférences sur la bande dessinée et en fait depuis 4 ans, partant du principe que je voulais monter un peu la théorie par rapport à la pratique, en fait j'ai monté un atelier qui s'appelle Récits graphiques à la Maison des Jeunes et de la Culture de Martigues, et je fais aussi un cycle sur l'histoire de la BD qui est accolé à un stage de pratique au Centre d'Art Contemporain. Donc l'idée c'était de faire au moins autant, voire plus de théorie que de pratique, parce que dans le Sud il y a beaucoup de festivals. Donc beaucoup aussi d'auteurs, beaucoup d'ateliers déjà de bande dessinée qui sont souvent liés seulement à la pratique et très peu à la théorie. Bon, c'est une manière pour nous auteurs de vivre aussi, donc du coup on fait ces ateliers. Mais l'idée c'était essayer de voir qu'est-ce qui se passait et est-ce que le public changeait si on montait la part théorique. Donc je suis aussi auteur, je viens de sortir un roman graphique qui raconte entre autres pourquoi on fait plus d'ateliers que d'albums au bout d'un moment. Et je suis aussi libraire à temps partiel depuis la rentrée.
Donc la bande dessinée, ça pousse les jeunes au crime et ça pousse les vieux à des professions improbables.
Étrange.
Et à se réunir dans des colloques. Donc moi-même, je suis Pierre-Laurent Dorès, donc je suis un peu dessinateur et surtout médiateur culturel dans le domaine de la bande dessinée. Ça signifie que je donne des cours théoriques, mais aussi beaucoup d'ateliers pratiques. Avec des volontaires, j'ai un atelier hebdomadaire avec des collégiens, et un autre avec des lycéens et des adultes, avec des semi-volontaires, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent à une option dans le cadre d'un cursus. Donc je travaille par exemple avec des étudiants de Sciences Po, ou avec des pas volontaires du tout en milieu scolaire, là s'ils sont captifs, ils sont obligés d'y passer, ou voire en entreprise même, c'est pareil. Donc toutes ces expériences qu'on aimerait partager avec vous en espérant que ça vous parlera aussi de ces fameux lecteurs. On va commencer par porter nos regards sur le bagage avec lequel se présentent nos lecteurs pratiquants. Quelles connaissances ils ont de la bande dessinée et de quelle bande dessinée? Quelle est leur curiosité? Comment ils réagissent lorsqu'ils sont confrontés à des œuvres qui sortent de leur champ de lecture habituel? Ça, c'est Yann qui va vous en parler tout de suite. Ensuite, j'enchaînerai en vous parlant de la façon dont ils s'engagent dans une production de personnelle et le rapport que celle-ci entretient avec leur lecture. Donc, ça nous conduira peut-être à étudier un peu les processus de conception et de réalisation des bandes dessinées et quelles affinités ce processus entretient avec des habitudes de lecture. Puis, s'il nous reste un tout petit peu de temps, ce dont je doute, on posera une typologie de ces lecteurs pratiquants. Donc je laisse tout de suite la parole à Yann pour parler du bagage avec lequel arrivent ces lecteurs, avec un titre qui est pas programmatique puisqu'on affiche un bagage limité.
Je vous rappelle que notre panel n'est pas de 5000 personnes mais de 50 à nous deux, donc voilà. Du coup voilà, ça n'ira pas tout. Donc en fait bagage limité, on a préféré peut-être plutôt un bagage exclusif où La première information, c'est que ils ont une. Je trouve pas mes mots, ça vous parle bien. Une connaissance à faible passante. Voilà, c'était le terme que tu avais trouvé. Donc en fait, ils sont lecteurs souvent de quelques auteurs seulement. Parfois, ils sont connaisseurs très pointus d'un genre. Les lecteurs pratiquants ont souvent des doutes, par contre, quant au périmètre exact de la bande dessinée. C'est-à-dire, est-ce que le manga, ça va être de la bande dessinée? Est-ce que le blog, je l'intègre? Ils ont vraiment des questions par rapport à ça. Ils viennent avec ces questions-là. Ils sont souvent lecteurs réguliers. Et de plus, ils sont très souvent demandeurs de repères, donc de repères à titre patrimonial, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important de savoir, et aussi de repères par rapport au marché. Donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais je vous rappelle que sur une rentrée, c'est au moins 1500-1600 titres qui sortent, donc du coup, ils veulent vraiment avoir des repères. Donc j'ai mis des photos de mes chers élèves. Ouais. Alors, vous voyez, du coup, moi, mon public, il y a des adultes, et aussi pas mal, là, il se trouve que je travaille à Martigues, qui n'est donc pas une ville universitaire, donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent compléter leur bagage avant d'aller faire des manas, des choses comme ça. Quoi. En fait, ils veulent se rassurer sur leur culture avant d'aller vers la grande ville. En participant dans les ateliers de BD, ils cherchent surtout et pas mal à valider la légitimité de leur choix justement et de leur savoir. Quoi. Donc en fait, ils viennent voir la pertinence de leur propre sous-culture. Donc ils sont très contents d'apprendre par exemple que le manga, je le fais remonter jusqu'à Okuzai. Du coup, ça les rassure. De savoir aussi qu'à travers le comics, on peut mieux comprendre les USA, voire aborder des questions philosophiques via Batman sur la puissance et l'autorité. Donc tout ça les rassure en fait sur leur propre culture. Et du coup, ils sont assez contents de voir qu'elle est égale, voire meilleure, que la culture high ou la culture des autres. Quoi. Dans cette idée, donc moi, du coup, dans mes ateliers, je fais beaucoup de passerelles avec l'art contemporain, avec le cinéma, avec la série télé, et ils sont très, très friands, justement, de voir comment leur domaine de compétence, en fait, est relié à tout le champ de l'art en général et de la culture en général. Et du coup, ils sont vraiment très fiers quand je cite leurs auteurs qu'ils considèrent eux comme incontournables au milieu de toute cette connaissance-là globale, quoi. Alors, notre enjeu étant de former a priori de meilleurs lecteurs, face à la question qu'on se pose du coup, est-ce que pratiquer rend meilleurs lecteurs ? Bon, on arrive quand même à leur faire découvrir des choses en dehors de leur domaine de prédilection. Pour mon cas, mais de manière générale, quand on confronte différentes générations, ça c'est très très fort, c'est-à-dire quand les adolescents sont obligés de défendre le manga par rapport à des adultes, du coup, effectivement, les adultes découvrent que le manga c'est peut-être intéressant. Donc en fait, cette confrontation générationnelle permet effectivement de découvrir d'autres choses. Alors du coup, j'organise souvent ce qu'on appelle les coups de cœur, enfin quelque chose de l'ordre de la critique littéraire, où on défend un coup de cœur en début de séance, et c'est très très drôle, très très drôle. Ce que je note aussi, c'est que c'est une pratique collective, du coup, en atelier, qui va des fois un peu en contre-courant de la pratique de la BD elle-même, même s'il y a beaucoup d'ateliers d'auteurs qui ont émergé ces dernières années. Généralement, la pratique de la BD est plutôt considérée comme quelque chose d'adolescent et recentré sur soi-même, voire tout seul dans sa chambre à dessiner. Donc du coup, le fait d'avoir une pratique collective, du coup, ouvre à une plus grande culture, en tout cas, ou à des centres d'intérêt différents que ceux avec lesquels on arrive. De plus, alors généralement, je présente des enjeux, on va dire, plastiques, c'est-à-dire comment, par exemple, l'usage des trames à travers le comics, la BD franco-belge ou le manga. Du coup, en découvrant que c'est des choses plastiques et techniques, en fait, recouvrent divers univers et divers genres, en fait, ça ouvre aussi la focale. Ils ont la satisfaction de se découvrir un langage commun, mais ce qu'on note quand même, c'est que de manière générale, ils ne changent pas radicalement de registre. Ils restent quand même sur leurs intérêts du départ. Donc au final, ils ne se déplacent pas beaucoup dans leur lecture ni dans leur production. Donc en fait, ils sont assez casaniers, parce qu'entre nos mains, ils sont assez fiers de voir que le champ de la bande dessinée est beaucoup plus large que ce qu'ils imaginaient, mais ça ne modifie pas fondamentalement leur préférence de lecture. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont bornés, on se faisait la réflexion que de toute façon, c'est aussi la même chose, par exemple, dans le cadre du polar ou de la science-fiction, les gens peuvent reconnaître qu'il y a un genre littéraire, enfin, beaucoup plus, mais qui reste sur leur domaine de compétence ou d'intérêt, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur les lecteurs ? Alors, déjà qu'un lecteur, avant même d'arriver à un atelier, a développé ou développe des affinités fortes avec un genre de bande dessinée, des affinités qui tendent à devenir exclusifs. Du coup, là, on notait aussi qu'on s'inscrivait dans la continuité de ce qu'on appelait le fandom, c'est-à-dire la communauté de fans, qui est aussi quelque chose qui a servi à la théorie de la BD de tout temps. En fait, c'est quand même ce qui a lancé même l'idée de l'histoire de la BD. C'était, on était fan d'eux, on est tombé en amour avec un genre ou avec un auteur, et du coup, on est très 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 compétent dans ce genre-là. Donc, ça a servi toute l'histoire de la BD. Et c'est très drôle dans l'atelier, parce que du coup, moi, j'ai des combats homériques entre les tenants de DC contre ceux de Marvel, auxquels moi, je comprends pas forcément grand-chose, mais eux, ils défendent vraiment leur grain de mou pendant des heures. On fait l'hypothèse quand même que ces affinités reposent plutôt sur du graphisme que sur le contenu narratif. En tout cas, dans le cadre des ateliers, ils viennent souvent parce qu'ils cherchent un retour pour les adultes, un retour au plaisir du dessin, comme dirait Luc Nancy, où certains viennent à l'atelier décomplexés d'avoir... ils ne sont pas obligés de faire du dessin modèle vivant, du dessin classique. La BD leur permet de retrouver le plaisir qu'ils avaient abandonné, parce qu'à l'adolescence, d'un coup, il faut soit dessiner comme Rembrandt ou arrêter de dessiner. Donc du coup, en venant à l'atelier de BD, ils sont assez décomplexés par rapport à ça. Alors du coup, leurs auteurs préférés sont très souvent mis vraiment très haut, mis au pinacle. Et en fait, même en pratiquant, ils découvrent qu'ils ont raison de les mettre très haut, mais que de toute façon, ils ne vont jamais atteindre ce niveau-là de travail. Ce qui est des fois parfois faux, parce qu'on s'aperçoit du coup qu'avec un peu plus de travail, ils pourraient atteindre de très hauts niveaux. Mais en fait, généralement, ils profitent juste de cette heure-là pour garder le plaisir de dessiner et en fait de valider le fait qu'ils aiment bien la bande dessinée. Tu complètes si je vais trop vite. Enfin, moi, personnellement, du coup, je vous ai dit que j'ai beaucoup fait les choses du côté plastique. J'ai toujours l'impression que, de toute façon, l'entrée par la BD se fait quand même plastiquement, par l'objet, livre ou par le dessin, souvent plutôt que par rapport au contenu. C'est vraiment pas pour des idées d'histoire qui rentrent en BD, mais plutôt parce qu'ils sont séduits par quelque chose effectivement de graphique. Donc, en fait, ce qu'ils donnent en tant que faiseur de BD, c'est un peu de la même façon qu'ils rentrent comme lecteur de BD, quoi. Du coup, ça se traduit dans la production du lecteur pratiquant. Il dessine souvent en reproduisant ce qu'il aime lire. En retour, il découvre un plaisir de lecture assez renouvelé. Ce qu'il appréciait par goût, il apprécie maintenant en connaisseur parce qu'il a pratiqué, essayé, compris certains systèmes par l'aide de petits jeux. Donc, il s'est confronté aux difficultés qu'a dû surmonter le dessinateur professionnel. Et du coup, là, on hérite dans nos ateliers à une pratique qui a lieu depuis le début dans la BD, qui est celle de la copie des maîtres. En fait, on essaye de comprendre comment il a fait pour nous-mêmes progresser. Bon, c'est quelque chose qui existe aussi en art classique, hein, mais en fait, la BD, c'est très fort. On sait comment Giraud a copié Gigé et tout ça. En fait, on est un peu dans la même démarche.
Sachant qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui se destinent à un avenir de dessinateur professionnel. Hein, pour les trois quarts ou même les 90%, c'est hors de portée. C'est juste, je veux me confronter à cette matière-là, quoi. Donc, on va peut-être regarder maintenant la façon dont ils se confrontent à cette matière-là et comment ils rentrent en bande dessinée, ces dessinateurs. La façon dont ils s'engagent dans la réalisation d'une bande dessinée. Je vais commencer par vous montrer une de mes bandes dessinées préférées qui a été réalisée par un garçon qui a moins de 10 ans, je crois, je me rappelle, qui venait d'assister à un atelier pédagogique sur les panneaux solaires. Donc, je vais faire un petit zoom, puis je vais vous lire le texte parce qu'il n'a pas adopté les mêmes règles grammaticales et orthographiques que celles que vous utilisez. Le panneau solaire capte. Deuxième image, le panneau solaire chauffe trop. Le panneau solaire est au point de brûler. Le panneau solaire brûle et ça explose. Sauf le réverbère, mais il flamme. Donc, je pense qu'il flambe. Donc là, on a du suspense, on a des situations critiques, on a des rebondissements, des explosions. On a une bonne bande dessinée. Quand
voilà, toutes les bases sont là.
Voilà, tout est là. Et donc, en fait, je vous montre ça parce que, pour illustrer un point que je voudrais développer maintenant, c'est que pour les plus jeunes, mais aussi pour quelques adultes qu'on a dans nos ateliers, la bande dessinée, ça s'écrit de case en case. En fait, sans souci de mise en page et sans souci de storyboard. Dans notre exemple, la souci de mise en page, ça faisait pas partie de l'exercice parce que je fournissais des gabarits carrés et puis il fallait les remplir. Mais le storyboard, par exemple, c'est l'étape de transformation d'un récit oral ou écrit avec des mots en une grammaire avec une séquence d'images, quoi. Donc c'est le moment où se conçoit vraiment la bande dessinée, on va dire. C'est une étape qui est préalable au dessin et qui, pour nos lecteurs pratiquants, c'est une source d'épuisement. C'est une étape qui est dévoreuse d'énergie, de plaisir. Il y a ceux qui jouent le jeu, qui vont faire le storyboard qu'on leur dit de faire, mais du coup, ils vont prendre de la distance par rapport à ce qu'ils font. Et
ils ne font plus la BD ensuite. Parce que
et ensuite, coup, ils ne font plus la BD. Voilà. Et puis, il y a ceux qui choisissent spontanément de court-circuiter cette étape et de s'engager directement dans le dessin pour rester vraiment en phase avec leur envie de raconter. Donc, il y a une envie de raconter. Et même dans le cas où l'intrigue n'est pas improvisée, où le jeune auteur il sait à peu près l'histoire qu'il veut raconter, il va quand même l'improviser de case en case. C'est-à-dire qu'il va faire la première case et c'est au moment de commencer la deuxième case qu'il va se poser les fameux choix de Scott McCloud. Il va se reposer la question du choix du moment, choix du cadrage, choix de l'image, choix des mots, qu'est-ce que je montre juste après. Mais ça, ce n'est pas un pré-choix. Donc il va faire des choix pertinents hein, souvent dans à ce moment-là, mais il va opérer ses choix avec pour seule contrainte celle des limites de sa page, de l'hypercadre. Alors par exemple, il va lui rester insuffisamment d'espace dans le strip ou sur la feuille pour mettre en œuvre ses choix. Il n'y a plus assez de place à droite pour mettre ma grande case allongée, je vais la mettre sur le strip d'en dessous. C'est pas très grave. Il suffit de passer à la ligne. On va laisser une marge de 10 cm à droite du précédent. Bon, c'est pas grave. Et puis, si la hauteur qui manque, on va changer de page en laissant une grande marge blanche en bas de la page précédente.
Ça change, je reprécise. C'est pas parce qu'ils savent pas le système. C'est vraiment parce qu'en fait, en application, en fait, ils ne veulent plus jouer ce jeu préparatoire. Ils veulent vraiment aller dans la production.
Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça montre que le travail de mise en page n'est pas une des composantes de la narration. C'est une composante de la fabrication du livre. Alors, c'est un jeune garçon, mais là, j'ai une jeune adulte qui me livre des cases de formats distincts, avec des marges intercases très variables, et qui s'en remet à moi pour ensuite fabriquer un livre à partir de ça. De la même manière, alors celle-là, c'est ma préférée, j'espère que vous... C'est un petit peu gore. C'est l'histoire de Loïc. C'est en deux pages. Voilà la première page. C'est assez grand. Vous devinez à peu près ce qui se passe. Le chat s'approche d'un appareil qui est un mixeur, en fait. Et voilà la fin de l'histoire.
C'est en noir et blanc.
Donc, on a un travail qui n'est pas storyboardé, qui n'est pas mis en page et qui est construit image par image. Alors après, pour mettre ça en page dans le petit livre que je leur fais faire à la fin de l'année, c'est à moi de faire le boulot. C'est le travail de l'éditeur, d'assembler tout ça en page. Ce n'est pas le travail du dessinateur.
Je me permets de dire ça, c'est encore plus vrai avec les publics captifs. Par exemple, quand on travaille sur les écoles et tout ça, on passe plus de temps à découper que finalement à expliquer la BD pour recoller dans des productions de fin d'année.
Exactement. Alors ça, c'est un autre exemple sur l'étape de storyboard.
Voilà,
c'est,
vous avez un storyboard, c'était feuille par feuille, parfait. Et en fait, il refait exactement. Donc effectivement, il s'est épuisé dans le storyboard à faire la première case pour refaire exactement la même chose dans le deuxième. Donc je comprends qu'après, il ne veuille plus passer par l'étape storyboard.
Et celui-là, c'est.
On voit au fur et à mesure, en fait, il avait très bien compris la leçon, entre guillemets, sur le cadrage et tout. Après, il a trouvé des choses très inventives sur la mise en page avec des cases. D'ailleurs, il a été convoqué chez le proviseur parce qu'il dessinait forcément en classe après, avec le cercueil comme case. T'as des problèmes ? Non. Et en fait, après, il s'est épuisé. Donc il s'est épuisé. Donc on retrouve effectivement tout assez parce que finalement j'ai pas conçu tout l'espace. Et donc il a fallu que moi je redécoupe pour après dans le fanzine mettre en entier. Puis à la fin finalement il a mis tout le texte pour tout finir en une seule page. Et alors qu'il avait fait un storyboard parfait au départ, mais en fait il a refusé de se remettre à l'intérieur. Il s'était trop épuisé la première fois.
Donc ça c'est pas valable que pour les jeunes, hein. Les adultes aussi procèdent comme ça. C'est Christina qui me donne des cases à monter moi-même pour arriver à la fin du truc. Donc en fait c'est une façon de procéder qui nous renseigne en deux points sur le rapport à la bande dessinée de cette catégorie de lecteurs pratiquants. C'est d'abord que le récit ne s'articule que par l'enchaînement des cases et pas par leur accumulation. Par le « et puis » et « alors », etc. Finalement, la mise en page ne participe pas à la narration et fait partie des opérations de publication. Mais ce n'est pas l'affaire du dessinateur. Et en creux, il y a une autre idée qui se dessine, c'est qu'il existe une forme de bande dessinée qui est indépendante du livre, en fait. Lorsqu'il s'agit de faire de la bande dessinée à des fins de publication, c'est-à-dire des bandes dessinées, celle qui figurera dans le recueil de fin d'année, il y en a qui se mettent à faire un exercice très scolaire. Ils ne sont plus du tout spontanés et ils nous font la bande dessinée avec les bonnes marges partout, avec le numéro de page en bas, la signature de l'auteur, le titre en haut, mais l'intérieur n'est pas très convaincant. Voilà,
du coup,
en
ils
fait,
sont beaucoup moins libres dans ce qu'ils racontent. Et en plus, ce qui se passe, c'est très souvent, alors moi, pour mes jeunes, en fait, du coup, ils ont des ambitions de faire de la bande dessinée, c'est-à-dire de devenir auteur de bande dessinée, alors qu'ils ne l'avaient pas auparavant. Le fait de les mettre en production fait que d'un coup, ils se sentent vraiment auteurs, quoi. Alors qu'au début, ils étaient là pour confronter leur culture et s'amuser. Voilà.
Donc, raconter une histoire en bande dessinée et faire un livre de bande dessinée, c'est pas pareil. Il y a deux bandes dessinées qui coexistent, celle qui est libre, décomplexée et inventive, mais ça, c'est pas de la vraie bande dessinée, c'est de l'infra-bande dessinée. Et celle qui va se trouver dans des livres qui est académique, mainstream, classique, et qu'on doit imiter si on veut faire de la bande dessinée, en fait. Donc ça nous dit quelque chose, je vais passer le truc sur le fanzine, ça nous dit quelque chose que sur la place qu'occupe le livre et le format du livre. Alors, il y a aussi le format manga, hein, mais le format manga ou le format franco-belge sont très déterminants, finalement, dans la conception que ces jeunes lecteurs se font de la bande dessinée. On va peut-être accélérer parce qu'il est déjà très très tard. Je voulais juste, on essaye de faire notre typologie, typologie. Ça, je vous montre. Alors, on a les dessinateurs. Voilà. Alors les dessinateurs, c'est ceux qui n'ont pas vraiment décidé d'histoire, mais ils veulent dessiner. Et on a des adolescents qui passent son temps à recopier Miller, Frazetta et qui publient du speed drawing sur Internet.
Et il a concédé un peu de cases à la fin, au final.
Mais voilà, à la fin, je lui ai demandé quand même de faire une bande dessinée, donc il a passé son année à recopier un dessin. Avec grand plaisir. Et puis, on a les mêmes qui font des chats manga toute la journée, pendant tout l'atelier BD. Et au moment de construire une histoire, c'est pas facile. C'est toujours un dessinateur.
Ouais. Donc lui, par contre, c'est pas du tout un ado, c'est un retraité. Mais quand il vient là vraiment, alors j'ai beaucoup de mal à le mettre dans les cadres. Il veut vraiment déborder. Là, on travaille sur Ulysse. Donc il est parti sur l'idée du char Ulysse inventé par Thalès. Donc il est très très inventif. Ça va très très vite. Pour la petite histoire, il va à Marseille taper chez les gens en disant qu'il est auteur de BD maintenant. Quoi. Mais bon, voilà, il n'arrive pas encore à se mettre dans les cases. Vraiment, il est là pour dessiner à tout craint.
Donc ça, c'est les dessinateurs.
Tu parles des manuels. Donc on a les manuels. Alors dans la catégorie les manuels, on a plutôt des adultes qui viennent là pratiquer la bande dessinée comme ils feraient de la calligraphie pendant une heure et demie ou de la poterie. Quoi. Ils ont une heure et demie après le travail de détente ou de retrouver le plaisir, ce que je disais, qui avait disparu à l'adolescence parce que c'était plus autorisé. Donc ils reviennent vraiment avec grand plaisir. Et donc alors ils sont très souvent... Et dans le sujet et hors sujet, là, on travaillait sur le poulpe l'année dernière, donc il n'a pas vraiment fait de la BD, mais il a occupé, en fait, quand même des choses très, très calligraphiques. Voilà, il a pris un grand plaisir. En plus, il trouvait que lui, il faisait de la danse, il était bloqué parce qu'il s'était cassé une cheville, donc il a dit, je viens à ton cours, comme ça, je peux m'exprimer. Voilà.
Oui, j'en ai une qui est partie pour faire du yoga à la place, finalement. Donc, bon, là, on est dans une activité
manuelle
qui n'a finalement pas forcément un grand rapport de plaisir avec la bande dessinée. On a ensuite les raconteurs, donc ça, c'est ceux qui ont vraiment quelque chose à dire. Et alors, Richard, cherche le bon médium pour s'exprimer.
Ils viennent avec un sujet préalable. Voilà. Alors, je viens à cet atelier pour raconter quelque chose. Donc voilà, comment vous m'aidez à raconter, quoi.
Voilà, donc il y a le quotidien à raconter. Alors ça, c'est...
Alors moi, c'est une psychologue qui est venue à cet atelier pour justement, parce qu'elle était intéressée par le fait qu'il y avait le rapport entre les cases et la BD. Par contre, elle refuse absolument de dessiner. Donc du coup, on a trouvé ce système où elle prend photo des poupées Barbie, et elle raconte des histoires, sachant qu'effectivement, pourquoi pas, ça rentre dans l'art séquence. Voilà. Elle est très 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 créative. Elle a prévu d'abandonner d'ailleurs d'être psychologue pour faire des arts plastiques. C'est très très drôle. Et en fait, ça rentre tout à fait. Mais par contre, elle est arrivée d'emblée avec moi. J'ai des choses à raconter. Je veux pas dessiner, donc il faut que tu me trouves comment je raconte ça. Quoi.
Et ça, c'est encore Christina qui est animatrice et qui raconte son quotidien professionnel, confronté à d'autres professionnels, à des enfants, etc. Donc là, c'est une forme d'expression qu'on va venir tester en atelier bande dessinée pour voir si ça permet de dire ce qu'on a vraiment à dire. Hein. Et c'est perçu comme une forme d'expression légitime chez ces adultes. Christina a 58 ans, toi, tu as des gens...
Katia, que j'ai voilà. Années, oui.
L'avant-dernière catégorie.
Donc on a les admirateurs, ceux qui viennent, qui recopient la bande dessinée mainstream, ceux qu'ils adorent. Donc en fait, ils n'ont pas d'idée de scénario. La seule chose qu'ils veulent, c'est recopier ce qu'ils aiment à tout craint. Ils peuvent tout refaire exactement, Spirou exactement comme il est, refaire exactement la même planche de manga. Ils prennent le personnage sans problème de droit d'auteur. Voilà. Alors par contre, ils oublient, là, on a vu qu'à la fin, il avait oublié les marges.
Oui, il avait oublié les marges entre les cases au milieu. Donc quand je lui ai dit ça, il était désespéré. déchiré, le pauvre garçon, ce pauvre Guillaume. Et voilà, donc l'admirateur de Midam. Là, on a un Léo qui est plutôt gottliebien dans son dessin, un dessin plutôt manga. Bon, ça donne des très belles choses à la fois. Hein. Bon, on va pas tous les passer.
Mais
ils
cherchent pas à évoluer. Ils veulent vraiment recopier ce qu'ils aiment et refaire ce qu'ils aiment. Quoi.
Puis je vais terminer quand même par les transgressifs parce que c'est les plus marrants. C'est souvent les adolescents, mais pas que. C'est un moment où on peut se lâcher à l'atelier BD, où on peut faire une activité créative, mais où on va s'émanciper des conventions sociales habituelles et on peut dessiner des zombies, on peut dessiner en cours d'art plastique, on n'a pas le droit de dessiner des choses comme ça. Et à l'atelier BD, on peut. Donc vous avez déjà vu le chat dans le mixeur. Voilà maintenant les aventures de Bob le zombie par Enzo, qui est un jeune ado qui passe pas plus d'1h30 par planche. Donc là, sur un strip, ça lui a pris 15 minutes.
La prochaine aventure, c'est contre Bob l'éponge.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est Bob le zombie qui travaille à la morgue, etc. C'est un résultat qui est parfois bâclé, parfois illisible. Mais l'important, c'est d'avoir le droit de dessiner ça. Et la bande dessinée, elle est perçue aussi comme ça, comme un lieu où on peut transgresser, comme un lieu où on n'est pas... Alors, sauf si on décide de faire un livre, alors là, il faut être académique et
tout.
Là, on peut
plus le faire.
Mais si on ne fait pas un livre, alors là, on peut se permettre tout ce qu'on veut. On peut se permettre des techniques de dessin inhabituelles. On peut raconter des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà comment est perçue la bande dessinée. Donc, je pense que c'est important de se rappeler aussi... On va conclure là-dessus, parce que vous avez tous faim. que cette typologie de lecteurs pratiquants, elle va dessiner en creux des profils de lecteurs.
On a l'impression que ça, quand même, ça définit aussi des profils de lecteurs. C'est pas que des pratiquants, et je pense qu'il y a une approche de la lecture qui doit être assez proche.
Est-ce
aussi
que ces gens qui sont allés au bout de leur désir, c'est-à-dire en allant dans un atelier BD, finalement, ils assouvissent des désirs qu'ils cherchent aussi dans les livres de bande dessinée, et je pense qu'on peut étendre au-delà des lecteurs pratiquants. Voilà, on va s'arrêter là parce que on voit qu'il est vraiment tard et que tout le monde a très faim. Merci de votre écoute.
Merci. Merci à vous. Oui, comme il a été souligné à plusieurs reprises dans cette matinée, on est très très en retard. Donc malheureusement, on ne va pas prendre de questions à la suite de ces deux interventions. Si toutefois il y avait des questions, je vous invite à les conserver, à les garder précieusement pour éventuellement pouvoir les reposer cet après-midi. Donc comme il est indiqué dans le programme, nous reprenons à 14h. Donc d'ici là, bon appétit. Précise, oui, absolument. Est-ce que tout le monde est badgé? C'est indispensable pour pouvoir circuler dans l'établissement et rentrer à nouveau, absolument. Ouais. Donc pensez bien à vous munir du badge ou à le demander si vous ne l'avez pas. Ouais.